journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'union ou la dispersion? La gauche joue peut-être cette semaine son destin aux législatives. Les négociations s'annoncent complexes ce matin entre des insoumis en position de force et des socialistes divisés en interne. Au PS, vous l'entendrez, certains dénoncent déjà une reddition. Plus de gaz pour la Pologne et la Bulgarie. La Russie met sa menace à exécution après 2 mois de guerre en Ukraine. L'Ukraine où l'agriculture est exsangue après le passage des Russes. Reportage près de Kiev, tandis qu'en Moldavie voisine, on s'inquiète ces dernières heures d'une extension du conflit. Si la justice est parfois très lente, c'est d'abord parce que les juges sont submergés de dossiers. Le Conseil supérieur de la magistrature dédouane une juge d'instruction accusée d'avoir fait traîner une procédure. Explication à suivre. C'est le rachat qui fait causer dans le monde entier depuis 24 heures. Elon Musk s'offre Twitter. On en parle dans 20 minutes avec vos invités, Nicolas.
Oui, Gérald Bronner, Olivier Tesquet, Julia Cagé, pour essayer de comprendre cet événement qui est à la fois économique, numérique et politique. Vous avez la place dans cette discussion. Évidemment, appelez-nous au 01 45 24 7000. Passez par l'application France Inter ou tout simplement par Twitter. On les lit aussi.
Dans ce journal aussi, la médecine narrative, une méthode américaine pour former des soignants plus empathiques et un festival de buts hier soir en Ligue des Champions.
France Inter.
Le délai fixé par les insoumis expire ce week-end, car après il faudra imprimer les tracts, les affiches, le temps presse, et toujours pas d'accord à gauche pour les législatives de juin. Ça patine avec les écologistes. Ce matin dans Libération, le secrétaire national des Verts, Julien Bayou, met en garde Jean-Luc Mélenchon contre une volonté hégémonique. Et les discussions ne font que commencer avec les socialistes. Première réunion à 10h ce matin. Au départ, le PS n'était même pas sur le plan de table, mais finalement le parti a voté pour un rapprochement avec la France insoumise, ce qui provoque au passage une grave crise en interne, Yael Gauz.
Négociation inédite et photo symbolique, car ce matin, le rendez-vous n'aura pas lieu en terrain neutre, mais directement au siège de la France insoumise. Confirmation d'un rapport de force qui s'est inversé, même si Pierre Jouvet, le porte-parole du PS qui emmène la délégation, n'entend rien lâcher.
Aujourd'hui, nous avons 30 députés. L'objectif est au moins d'en garder autant et de viser sans doute plus.
Il a changé, Jean-Luc Mélenchon ?
Je le crois. En tout cas, je vois qu'il est dans une attitude plus ouverte, qu'il veut lui aussi discuter avec toute la gauche sans exclusive. Et moi, je pense que nous y allons dans le respect des identités de chacun.
Une première discussion uniquement sur le fond, comment accorder les violons, sur les retraites notamment, ou l'Europe, la répartition des investitures, on en parlera plus tard. Mais ce début de rapprochement est déjà une faute, fulmine l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis.
Pour moi c'est non, ce n'est pas une coalition qu'on nous propose, c'est une reddition. 3,5 millions de Français qui étaient socialistes, écologistes ou communistes, voire d'autres, n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est l'effacement final du PS, regrette aussi l'ancien ministre Stéphane Le Foll. La majorité du parti a voté pour négocier, répond la direction. Qu'ils partent s'ils le veulent, insiste un cadre, pour qui il n'y a pas de gauche irréconciliable, surtout quand en face, votre partenaire a fait 10 fois plus de voix.
Yael Gauz, du côté de la majorité, certains alliés commencent à s'impatienter, voire à s'agacer. Le parti Horizon d'Édouard Philippe se dit ce matin surpris de l'absence de discussion pour l'instant avec la Macronie pour les investitures du mois de juin. Encore une fois, Emmanuel Macron semble vouloir rester le maître des horloges. C'est en toute discrétion qu'il réfléchit à ses législatives, mais aussi à son prochain gouvernement. Ce qui n'est évidemment pas innocent, Simon Le Baron.
Il écoute, il reçoit, il consulte. Lundi, il a eu Nicolas Sarkozy et François Hollande au téléphone. Hier, il a déjeuné avec des fidèles à l'Élysée et, comme d'habitude, personne ne sait vraiment ce qu'il a dans la tête. S'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est l'omerta qui l'entoure, résume un historique qui peut pourtant se targuer de faire partie des très proches. Un culte du secret éminemment tactique, explique un conseiller du gouvernement. Pendant ce temps, les journalistes ont tout loisir de s'intéresser au tiraillement des LR, aux négociations tendues à gauche, toute cette cuisine qui s'étale au grand jour, pas très valorisante pour eux du point de vue macronien. Et puis, en faisant traîner en longueur la nomination de son premier ministre et ses arbitrages pour les législatives, le président ne cède pas seulement à un penchant naturel. Il retarde d'autant le début d'une campagne dont la longueur théorique, cette semaine, du jamais vu, ne joue pas en sa faveur, comme s'il voulait reproduire en mai-juin la campagne éclair d'avril.
Emmanuel Macron qui fera en fin de matinée sa première apparition publique depuis l'élection. Déplacement dans un quartier populaire de Cergy dans le Val d'Oise. Il est ensuite attendu à 16h aux Invalides à Paris pour l'hommage national à Michel Bouquet, le comédien mort le 13 avril à 96 ans. Ses ex-compagnons de route Muriel Robin, Fabrice Lucchini et Pierre Arditi prendront aussi la parole dans la cour d'honneur.
Il est 8h06. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Alexis, Moscou coupe le robinet.
Faut-il y voir une riposte après les engagements des Occidentaux hier sur des livraisons d'armes lourdes aux Ukrainiens? La Russie suspend dès aujourd'hui ses fournitures de gaz à la Bulgarie et la Pologne. Sofia et Varsovie en ont été informées au dernier moment hier soir par le géant russe Gazprom. Les deux pays sont très dépendants de cet approvisionnement à plus de 90% pour la Bulgarie. Mais ce matin, les gouvernements se veulent rassurants. Aucun risque de restriction à ce stade. Ce conflit en Ukraine va-t-il maintenant s'étendre à la Moldavie voisine? C'est en tout cas la crainte des Occidentaux après une série d'explosion en Transnistrie, cette région séparatiste pro-russe de Moldavie. Alors on ne sait pas encore qui en est vraiment à l'origine, mais pour Florent Parmentier, chercheur au centre de géopolitique d'HEC, Moscou pourrait bien chercher à entraîner les Moldaves dans ce conflit.
Ce qu'on peut voir, c'est que la vulnérabilité de la Moldavie aujourd'hui, y compris sur un plan militaire, en fait, j'allais dire, une cible facile pour l'élargissement du conflit. Du côté de la Russie, on accuse l'Ukraine d'être à la manœuvre tout simplement pour déstabiliser la Transnistrie, voire même pour pousser la Moldavie à rentrer dans le conflit. Côté moldave, il y a une volonté de ne pas montrer d'inquiétude. C'est tout simplement d'essayer de ne pas donner trop de prétextes à la Russie pour intervenir.
Le chercheur Florent Parmentier avec Anaël Larue. L'Ukraine, grenier à blé de l'Europe, on l'a beaucoup dit, d'où les conséquences actuelles sur l'agriculture mondiale. Un grenier qui ne produit plus, même dans les régions libérées récemment par les Russes. Impossible de semer. Les champs restent désespérément vides, comme l'a constaté Faustine Calmel, envoyée spéciale d'Inter à Brovary, dans l'est de Kiev.
Alexander Fenchwin a remis les pieds dans sa ferme au départ des Russes il y a un mois, mais devant ses bâtiments éventrés, il n'en revient toujours pas de l'étendue des dégâts.
C'est une horreur. Franchement, j'espérais que seul le toit brûlerait, mais même les poutres se sont écroulées. Tout est détruit, tout est tordu.
Il ne reste plus rien, non plus des 5 voitures et 15 machines agricoles criblées de balles et d'éclats d'obus. Impossible donc de semer tournesol et maïs dans les 1000 hectares de son exploitation, d'autant que la plupart des champs ont été le théâtre de combats.
Il y a des obus qui traînent, je ne sais pas si les champs sont piégés ou pas, et aujourd'hui nous souhaitons commencer à appliquer les engrais sur les cultures d'hiver. Sur le reste des surfaces aussi d'ailleurs, cela reste à faire. Mais mes gars ont peur, et moi aussi.
Alexander sillonne ses champs avec un détecteur de métaux et utilise un drone à ses risques et périls.
Tout ce que nous avons acquis ces 25 dernières années, tout est là.
L'homme se tourne vers la terre noire creusée de trous d'obus. Il faut semer avant la mi-mai pour assurer la production.
Faustine Calmel et Jérémy Thuil, envoyés spéciaux d'Inter en Ukraine. Et puis cette curieuse série de décès parmi les oligarques russes. Depuis fin février, 6 d'entre eux sont morts dans des circonstances troublantes. C'est un article à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr. En France, c'est une affaire qui à elle seule incarne les lenteurs de la justice, tout comme la surcharge de travail des magistrats. Une ancienne juge d'instruction, poursuivie par un particulier, car elle avait mis trop de temps à instruire un dossier dans lequel il était mis en cause. Le Conseil supérieur de la magistrature vient de trancher. Oui, la procédure était trop longue, mais la magistrate ne sera pas sanctionnée. Selon le CSM, elle ne pouvait pas faire mieux vu ses conditions de travail. Ariane Grissel.
Quand cette juge d'instruction prend son poste à Avignon en 2012, une centaine de dossiers, dit-elle, l'attendent sur son bureau, dont celui-ci, une affaire de blanchiment, démarrée 8 ans plus tôt. Il a donc fallu faire des choix. Comme l'explique Ludovic Fria, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats, il a assisté sa collègue devant le Conseil supérieur de la magistrature.
Les choix, ça va être effectivement de se dire « je vais d'abord traiter les dossiers criminels, puis les dossiers de détenus, et enfin les dossiers qui restent ».
Devant le CSM, la magistrate a également expliqué avoir jugé ce dossier trop complexe pour s'y plonger par intermittence. Ludovic Fria.
Tous les magistrats que je connais auraient fait ce choix de se dire « ce dossier, je vais le traiter de façon satisfaisante quand j'aurai le temps de le traiter, plutôt que de faire des actes par-ci, par-là, qui vont donner à la procédure une apparence de régularité et d'avancement. Je préfère le prendre en une fois, et une fois que je l'ai commencé, aller jusqu'au bout. »
L'avocat de l'homme qui a saisi le CSM dit de son côté s'étonner que le conseil ait reconnu un possible manquement sans prononcer de sanctions et dénonce l'envoi l'entre-soi des magistrats. L'ancienne juge d'instruction, elle, a désormais passé la main sur cette affaire de blanchiment, toujours en cours, 18 ans après son commencement. L'État a d'ailleurs été condamné en janvier dernier dans ce dossier pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Travailler le week-end, la nuit, tôt le matin ou tard le soir, les horaires atypiques touchent de plus en plus les femmes peu qualifiées. C'est ce qu'on retient d'une nouvelle étude de l'Institut National d'Études Démographiques. Au total, en France, 36% des salariés travaillent régulièrement en horaires décalés. Et désormais, les femmes sont donc davantage concernées que les hommes, particulièrement le samedi et le dimanche. Cette proportion a augmenté de 11% chez les ouvrières non qualifiées, alors qu'elle a baissé pour les cadres. Après avoir franchi la barre des 25 000 la semaine dernière, les hospitalisations pour Covid repartent à la baisse, 24 700 patients précisément ce matin. De nombreux services hospitaliers ressortent exsangues de ces deux ans de pandémie, faute de personnel notamment. Dans ce contexte, difficile de prendre le temps suffisant pour chaque malade, c'est pourtant essentiel, un minimum d'empathie. Alors des médecins se forment en ce moment à la médecine narrative, une méthode américaine qui fait son chemin en France, c'est le reportage de Victor Dolande.
Écouter le patient, un réflexe pour tous les médecins? Pas forcément. En moyenne, le praticien interrompt son patient 17 secondes seulement après ses premières paroles. Pour le professeur Serge Perrault, chef de service au centre de la douleur de l'hôpital Cochin, il faut changer la méthode.
Apprendre à écouter le patient autrement dans son récit, c'est apprendre à ne pas le couper. Si on le laisse parler comme ça plus librement et qu'on l'écoute dans son récit comme on écoute un roman d'aventure, et bien d'abord ça va être passionnant et puis surtout on va apprendre des choses qu'on n'aurait pas apprises si on était resté dans une écoute très médicale, organisée, où on nous apprend d'abord à écouter les antécédents, l'histoire de la maladie. C'est extrêmement formaté.
Pour enseigner cette approche aux étudiants en médecine, il a mis en place des ateliers d'écriture, raconter leur vocation médicale, mais aussi leurs souvenirs en tant que malade, des techniques inhabituelles en faculté de médecine, mais indispensables pour Emmanuel, étudiante en cinquième année.
En nous faisant raconter les choses un peu en tant que patient, ça nous remet dans un cadre où on comprend que nos patients sont des êtres humains. Parce que parfois, nos patients, on les voit comme des tableaux cliniques, comme des challenges, comme ce que vous voulez, mais pas forcément comme un être humain. Et donc oui, je pense que ce cours, il a bien joué ce rôle, et qu'au-delà de ce rôle, il a joué un rôle énorme pour nous, parce que nous aussi on est des êtres humains, en fait on n'est pas des machines à soigner.
Et ce n'est pas qu'une question de temps, le professeur Perrault assure qu'une meilleure écoute du patient permet d'aller beaucoup plus vite pour établir le diagnostic.
France Inter, il est 8h13 en Israël, c'est ce soir, Alexis, que débutent les cérémonies du jour de la Shoah.
Les sirènes vont retentir dans tout le pays en hommage aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis. À Jérusalem, le mémorial Yad Vashem est chargé de désigner les justes parmi les nations, c'est héros anonymes qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une commission se réunit trois fois par an pour étudier les demandes de distinction. Notre correspondant Frédéric Mettezo a rencontré l'une de ses membres, une bénévole chargée spécifiquement des dossiers français.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier? On a un témoignage audio.
C'est le dernier dossier que Liliane Lvov-Mayer a reçu à étudier, celui d'Esther, née en 1924 à Paris.
On a des papiers d'identité, vous voyez.
Ces sauveurs peuvent-ils, oui ou non, être qualifiés de justes? Elle devra rendre son avis devant la commission.
On a appelé la commission le tribunal du bien. On pose beaucoup de questions. Dans le dossier, il y a des documents. Il y a des témoignages et à partir de ces documents, j'écris un rapport. Je donne mon opinion en mon âme et conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera acceptée par tout le monde.
L'avocate à la retraite de 74 ans a épluché des dizaines de dossiers. Pour elle, c'est une plongée au cœur de l'humanité.
Je qualifierais ce rôle d'un travail d'amour pour son prochain. Je viens d'un milieu originaire de Pologne qui sont arrivés en France après la guerre et qui sont des survivants de la Shoah. C'est de l'archéologie humaine. Je découvre des gens extraordinaires et c'est extrêmement émouvant pour moi.
Liliane nous demande d'écouter les anciens et de leur poser des questions et de lui transmettre un maximum de dossiers. Elle est persuadée que des dizaines de Français méritent ce titre de juste. Tel Aviv, Frédéric Mettezo, France Inter.
Des patrons favorables à un jour férié supplémentaire. Ça se passe au Royaume-Uni où les organisations patronales font campagne pour rendre permanent le jour de congé instauré le 3 juin prochain pour le jubilé de la reine, qui est normalement donc un jour exceptionnel. Les bénéfices d'un nouveau jour de vacances dépasseraient son coût, selon la CBI, le MEDEF britannique. Eux, ils l'ont bien mérité, leur jour de repos. Match totalement fou hier soir en Ligue des Champions de football. 7 buts inscrits durant la demi-finale aller entre Manchester City et le Real Madrid. Au bout, c'est les Anglais qui l'emportent 4-3. Mais côté madrilène, Benzema a une nouvelle fois brillé, Winnie Claret.
7 buts marqués en demi-finale de Ligue des Champions, ça n'était pas arrivé depuis 4 ans. Un match renversant à l'image du pénalty tiré par Karim Benzema pour le Real à la 80e minute devant les caméras de Canal+.
Benzema face à Ederson ! Benzema ! Il en fallait dans le ventre pour tenter cette Panenka !
Ce tir piqué qui finit au beau milieu des filets, il fallait oser. Karim Benzema l'a fait et signe un doublé. 14 buts en Ligue des Champions cette saison, c'est du jamais vu pour un Français. Le capitaine madrilène tout en sang-froid.
Il y a des moments où il faut faire le dos rond. Il ne faut pas oublier que City est une grosse équipe. Donc voilà, on a continué notre travail et au final, on a réussi à marquer 3 buts. C'est le mental.
Du mental, il en fallait face à des Citizens qui ont dominé toute la partie. Le milieu mancunien Bernardo Silva, élu homme du match, regrette de ne pas avoir creusé l'écart.
C'est la Champions League. On sait aussi les joueurs qu'El Madrid, ils ont devant, avec spécialement Benzema et Vinicius qui nous font beaucoup de mal.
Manchester City prend une toute petite option sur la finale. Ce serait la deuxième de son histoire. Il faudra d'abord passer par l'antre du géant européen mercredi prochain à Santiago Bernabéu.
Et ça continue ce soir. L'autre demi-finale aller opposera Liverpool à la surprise de ce dernier carré, les Espagnols de Villarreal à partir de 21h.
Merci Alexis Morel. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Et encore des brouillards, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, comme hier, l'humidité restée sur le nord-est entraîne la formation de bonnes grisailles sur le nord, à la Lorraine, au Bas-Rhin. Sur les autres régions, vous avez pu voir le soleil se lever, excepté sur les Pyrénées, où le ciel est déjà menaçant sur le Pays Basque, car on a des nuages qui remontent d'Espagne jusqu'à la Garonne en matinée. Et on a également quelques entrées maritimes aussi ce matin sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse. La fraîcheur est marquée du nord au centre avec un petit risque encore de gelée blanche comme à Bourdon, en Haute-Marne. On relève moins 2. Il fait 0 sur les Ardennes et à Beauvais, dans l'Oise. Contraste donc avec les 14 à Biscarros et les 15 à Menton.
Et cet après-midi, ensoleillé.
Et oui, avec un bémol dans le sud-ouest, toujours où l'instabilité va remonter jusqu'au sud de la Garonne à cause de la goutte froide espagnole. Et ces pluies, ces orages gagneront même les Charentes en soirée. Ailleurs, ce sera ensoleillé avec quelques cumulus inoffensifs. Il fera généralement doux pour la saison, excepté près de la Manche où la bise de nord-est va encore souffler et limiter la hausse des températures. Au plus bas, il fera 13 à Dunkerque, 17 à Langres, 18 au Havre comme à Bastia. Comptez 19 à Strasbourg et à Paris, 21 à Nantes comme à Marseille. Et dans le sud-ouest, ce sera la chute après les 26 degrés à Osgore hier et au Cap-Breton. Aujourd'hui, il fera à peine 18. On attend quand même 23 à Toulouse et à Nîmes et même 24 à Tulle.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.